Bien. Ceci donc pour l'introduction au colloque, et maintenant je voudrais vous parler d'un sujet particulier qui est l'objet de très nombreuses recherches dans mon laboratoire et dans d'autres laboratoires dans le monde, qui est l'apprentissage de la lecture. Comme vous le savez, je travaille avec mes collègues au centre Neurospin, qui est situé à Saclay, dans le sud de Paris, dans lequel nous disposons de très nombreuses machines qui permet d'étudier le cerveau, l'IRM fonctionnel, les potentiels évoqués, la magnétoencéphalographie, mais je voudrais vous faire part d'une technologie extrêmement importante sur laquelle nous travaillons. Il s'appelle le Bio-Optically Organized Knowledge Center. Et peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler de cette technologie.
Hola. Presentamos el nuevo dispositivo de conocimiento bio-óptico organizado, de nombre comercial BOOC. BOOC es una revolucionaria ruptura tecnológica, sin cables, sin circuitos eléctricos, sin batería, sin necesidad de conexión. Compacto y portátil, BOOC puede ser utilizado en cualquier lugar. Al carecer de batería eléctrica, no necesita recargarse, pudiendo ser utilizado tanto tiempo como sea necesario, aunque no se tenga disponible una toma de corriente. BOOC nunca se cuelga. BOOC nunca necesita ser reiniciado. Simplemente tienes que abrirlo y comenzar a disfrutar de sus enormes ventajas. Así es como funciona. BOOC está construido con hojas de papel numeradas secuencialmente, cada una de las cuales es capaz de almacenar miles de bits de información. Cada página es escaneada ópticamente, registrando la información directamente a tu cerebro. Una simple sacudida de dedo nos...
Bon, je vous laisserai regarder la suite sur Internet. Elle est du même niveau. Mais après tout, cette personne a parfaitement raison. C'est une révolution technologique que nous avons connue, qui a transformé l'humanité. C'est effectivement des milliers de bits d'informations qui parviennent à notre cerveau. Je voudrais vous rappeler que si vous n'aviez pas appris à lire, n'importe quelle page de n'importe quel livre ressemblerait à ceci, c'est-à-dire une simple texture dans lequel on ne parvient pas à décrypter les informations. Il a fallu des années pour les décrypter. Mais parce que vous avez appris à lire, eh bien, cette page devient une conversation avec les morts. On peut écouter les morts avec les yeux. C'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on peut pénétrer l'esprit d'une personne qui est décédée simplement parce qu'elle nous a légué des textes écrits. Et vous savez que ça a changé notre société. Donc c'est ceci dont il s'agit, créer dans le cerveau des enfants un décrypteur de pages de texte. Alors je voudrais aujourd'hui vous présenter ce que nous savons des circuits cérébraux de la lecture et réfléchir à la manière dont ces connaissances éclairent l'apprentissage de la lecture. Nous savons que le cerveau humain comprend des circuits impliqués dans le traitement du langage parlé. J'ai représenté très schématiquement ici. Nous savons que ces circuits sont présents pratiquement dès la naissance, qu'ils entrent en jeu pour le traitement de la langue maternelle, lorsque l'enfant entend sa mère ou les personnes qui l'entourent, et que donc dans les premières années de vie, ces réseaux vont intégrer une connaissance très fine de la langue parlée maternelle de l'enfant ou des langues maternelles de l'enfant. Alors qu'est-ce que la lecture ? Eh bien la lecture, ça consiste à accéder à ce circuit par le biais de la vision. Et nous commençons à comprendre ce qui se passe. Une région se met en place pour la représentation des lettres et des chaînes de lettres, des graphèmes, et elle entre en connexion avec ce système du langage. Évidemment, les lettres pénètrent d'abord dans le cortex visuel et ces régions vont être changées. L'information va être canalisée vers les aires du langage et en particulier la représentation des phonèmes va être modifiée et le dialogue entre graphèmes et phonèmes va jouer un rôle très particulier dans la capacité de déchiffrage en lecture. Alors, je voudrais vous montrer aussi aujourd'hui qu'il y a d'autres circuits importants, les circuits de l'attention et du mouvement des yeux, les circuits de gestes d'écriture, qui contribuent également à former un circuit de la lecture. Donc la lecture n'est pas le résultat d'une région cérébrale, la lecture est le résultat d'un circuit qui comprend plusieurs régions cérébrales coordonnées, et c'est cette coordination fluide qui constitue un bon lecteur. Pour étudier les circuits de la lecture, nous avons au laboratoire réalisé une série d'expériences dans des conditions particulières sur des personnes non alphabétisées. Nous avons essayé de visualiser la totalité des changements cérébraux de la lecture en comparant le cerveau de personnes qui ne sont jamais allées à l'école, que nous avons trouvées au Brésil, ou des personnes qui ne sont jamais allées à l'école mais qui ont appris un petit peu à lire par la suite à l'âge adulte, au Brésil et au Portugal, et que nous avons comparé à des personnes comme vous et moi qui avaient appris à lire à l'école, même si elles étaient éventuellement des mêmes milieux que les autres personnes. voyez ici quelques photos de ce recrutement de ces volontaires au Brésil. Nous avons ensuite scanné en IRM, également avec les potentiels évoqués, également étudié leur comportement. Ce travail a été rendu possible par Lucia Braga, aux hôpitaux Sara, Brasilia. Et à Neurospin, nous recrutions des personnes donc, d'origine du Portugal, que nous faisions venir en avion pour les scanner à Neurospin. Donc une très grosse recherche, dont la dernière publication va avoir lieu dans quelques jours dans PNAS. Qu'avons-nous trouvé ? Eh bien, lorsqu'on expose ces personnes à des mots, des chaînes de mots qui forment des phrases, nous observons que le cerveau répond en proportion directe du score de lecture. C'est-à-dire que les régions que vous voyez ici en rouge s'allument lorsqu'une personne a appris à lire, mais ne s'allument pas lorsque la personne n'a pas appris à lire. C'est extrêmement simple. Vous voyez que ça concerne toutes ces aires du langage, qui sont les mêmes aires qui vont s'activer par le langage parlé. Donc la lecture donne accès aux régions du langage parlé. Mais la lecture active aussi des régions qui font partie de la voie ventrale visuelle. On a ici retourné le cerveau, vous avez le cortex occipital qui comprend les aires visuelles primaires et secondaires, et cette région tout à fait particulière que l'on voit très systématiquement chez chaque personne qui a appris à lire et qu'on a appelé l'aire de la forme visuelle des mots. Vous voyez que son activation augmente systématiquement en fonction du score de lecture des personnes, le nombre de mots lus par minute. On a appelé cette région la boîte aux lettres du cerveau parce qu'elle concentre l'information sur les lettres. Et vous voyez qu'elle va s'activer même chez des personnes qui ont appris tardivement à lire, à partir du moment où elles maîtrisent la lecture à un certain niveau, à partir du moment où elles savent lire suffisamment de mots par minute. Donc il y a une plasticité dans le cerveau de l'adulte, et encore plus dans le cerveau de l'enfant, qui permet à cette région de se spécialiser pour la lecture. Donc c'est la première région clé de mon exposé, cette région de la voie ventrale visuelle qui permet de prendre des informations génériques sur les lettres que nous avons tous, que les enfants ont tous, mais d'extraire de ces informations sur la page des choses très spécifiques, la forme des lettres, l'ordre des lettres, l'identité des lettres, de manière à les transmettre aux aires du langage. Alors, que dire sur cette région ? Nous savons beaucoup de choses sur cette région. Très rapidement, c'est une région qu'on peut détecter en quelques minutes d'IRM à partir du moment où quelqu'un a appris à lire. C'est une région qui est spécialisée pour la reconnaissance de l'écriture que connaît la personne. Donc elle va répondre en chinois si vous avez appris le chinois, sinon elle ne répondra pas. Elle est située au même endroit dans toutes les cultures et elle est entourée d'une mosaïque de régions qui s'intéressent à d'autres catégories visuelles. Donc vous avez une région qui répond aux mots, qui est entourée de régions qui répondent aux objets, aux visages ou aux lieux. Que fait cette région ? Eh bien, elle est responsable de la totalité des opérations non conscientes qui vous permettent de reconnaître les mots dans toutes les conditions de la vie. Donc, vous ne vous en rendez pas compte, mais votre système de lecture réalise des opérations tout à fait intéressantes. Par exemple, une invariance pour la position, la taille ou la casse. Vous savez lire tous ces mots qui sont écrits en minuscules, quelle que soit leur position sur la page, quelle que soit leur taille, qu'ils soient écrits en majuscules ou en minuscules, et ceci n'est pas trivial du tout, parce que si vous regardez en détail, la forme des lettres peut être complètement différente, et ce n'est qu'une convention culturelle qui relie le petit R et le grand R. Et vous pouvez même lire des mots dans lesquels une lettre sur deux est en majuscule ou en minuscule, quelque chose que vous n'avez jamais rencontré auparavant, ce qui vous montre au passage que le contour du mot n'est pratiquement pas utilisé dans la lecture. C'est l'identité des lettres qui est décodée ici et qui est rendue à une représentation invariante. Alors, en même temps que le cerveau élimine certaines différences, comme celle entre le R et le R qui n'est pas pertinente, il amplifie certaines différences qui sont pertinentes. Par exemple, ici, une toute petite différence entre deux lettres va vous permettre d'accéder à des mots et des prononciations complètement différentes. Ce système et cette région est sensible à l'agencement des lettres. Donc, il ne suffit pas de savoir la liste des lettres, mais encore faut-il voir dans quel ordre elles sont présentées. Et on sait, par exemple, que cette région va faire la différence entre deux mots comme trèfle et reflet, qui sont les mêmes à l'exception d'une lettre qui est déplacée. Et enfin, cette région intègre, au fur et à mesure que l'enfant apprend à lire, l'ensemble des statistiques non conscientes qui sous-tendent la lecture. Si je vous montre par exemple ce mot avec une tache d'encre, tout le monde a lu collège, et bien sûr c'est le cas parce que vous pouvez reconstituer sur la base des statistiques des lettres, même s'il s'agissait d'un pseudo-mot, la présence d'une lettre cachée. Évidemment, s'il s'agit de lettres aléatoires, vous ne pouvez pas le faire. Donc cette région a internalisé l'ensemble des statistiques de l'orthographe du français. Pourquoi avons-nous une telle région? Eh bien, parce que dans le cerveau de tous les primates, par exemple ici le singe macaque, il existe une région ventrale qui est dédiée depuis longue date à l'extraction des invariants visuels pour la reconnaissance des objets et des visages. Et nous transformons cette région, nous recyclons cette région pour la réorienter vers la forme des lettres et vers la forme des mots dans notre système d'écriture. Nous pensons, et ce n'est qu'un modèle, mais c'est un modèle qui guide les travaux du laboratoire, nous pensons que de la même manière qu'une pyramide neuronale de synapses successives permet la reconnaissance des visages, une pyramide neuronale permet la reconnaissance des mots. Pour vous expliquer un petit peu, ici nous pensons, sur la base de très nombreux enregistrements neuronaux, que la reconnaissance des visages fonctionne par partie. À la base, dans l'aire visuelle primaire, il y a des détecteurs de traits élémentaires, et en assemblant plusieurs de ces neurones, le neurone suivant peut détecter la présence d'un œil, par exemple. Plusieurs neurones assemblés peuvent détecter quelque chose comme la région des yeux, et plusieurs neurones assemblés peuvent détecter la présence d'un visage particulier. Et il y a de l'évidence que l'information progresse de cette manière-là, de plus en plus abstraite. Nous pensons que c'est la même chose pour la lecture, et que donc apprendre à lire consiste à mettre en place dans le cerveau de l'enfant cette pyramide qui permet de reconnaître des lettres particulières, des lettres quelle que soit leur police, des couples de lettres ou des ensembles de lettres qui reviennent souvent en français, comme un E à la gauche d'un N, et finalement des morphèmes, des petits mots qui, par leur combinatoire, vont permettre de représenter n'importe quel mot. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est que cette région ne fait pas qu'apprendre à lire. Si ce modèle est correct, elle est recyclée d'une région qui servait à autre chose auparavant. Alors, nous avons pu voir cela chez l'étude de nos personnes illettrées et lettrées. Nous avions présenté toutes ces catégories de stimuli aux personnes et nous avons vu, effectivement, que lorsqu'on présente des chaînes de lettres, même sans signification, l'activation de cette région de la forme visuelle des mots augmente en fonction du score de lecture des personnes. Vous voyez, les illettrés ont très peu d'activation, les analphabètes, et plus on sait lire, plus on active cette région lorsqu'on présente des chaînes de lettres. Mais ce qui est intéressant, c'est que les réponses à toutes les autres catégories sont soit plates, soit négatives. Et vous voyez en particulier qu'un illettré, un analphabète, va activer très fortement la région en question par des visages, ou également par des damiers, ou par des objets, vous voyez. Et il y a une tendance à ce que cette activation décroisse à mesure que la personne apprend à lire. Une forme de compétition qui a lieu dans le cerveau. Et on observe également que, du coup, les visages se déplacent et l'activation liée au visage augmente dans l'hémisphère droit à mesure que les personnes maîtrisent de mieux en mieux la lecture. Donc la lecture est en partie un processus visuel, d'analyse visuelle, qui bouleverse le système visuel. Et tout ceci, donc fait partie du travail que nous publions dans quelques jours avec Felipe Pegado, tout ceci se passe en moins d'un cinquième de seconde. Vous voyez, avec cette technique de potentiel évoqué, on peut enregistrer le décours temporel de l'activation chez ces personnes analphabètes ou alphabétisées ou ex-alphabétisées, et on peut voir que l'apprentissage de la lecture amplifie très fortement une réponse vers 170 millisecondes, ici, commence vers 140, 150, et qui correspond à l'entrée en activité de cette région de l'hémisphère gauche, donc de la forme visuelle des mots, qui est très fortement amplifiée en réponse aux lettres. Ce qui est intéressant, c'est que dans le même temps, la réponse de cette région gauche au visage diminue lorsque la personne apprend à lire. Et le score de lecture prédit une diminution de cette activation en réponse au visage, et l'activation au visage augmente dans l'hémisphère droit. Ici, la flèche rouge indique, et la courbe rouge indique l'augmentation de la réponse dans l'hémisphère droit. Donc, une réorganisation visuelle très forte. Alors ceci, nous pouvons le voir chez l'enfant également. Vous savez qu'il est possible maintenant, grâce à des moyens très simples, d'accueillir des enfants dans une IRM. Nous avons une fausse IRM à Neurospin qui leur permet de jouer avec, de voir que ça fait du bruit, mais que ça n'est pas dangereux, mais qu'il ne faut pas bouger, etc. On entraîne les enfants à ne pas bouger. On leur explique qu'ils sont les pilotes d'un vaisseau spatial et que si par hasard ils bougent, c'est embêtant parce que le vaisseau ne va pas aller vers la bonne planète, donc on les engage dans une sorte d'aventure scientifique avec eux, et dans ces conditions, on peut tout à fait scanner des jeunes enfants vers 5-6 ans sans difficulté. Et alors, ce que Ghislaine de Hanlambert et Carla Monsalvo ont découvert, c'est que dès la première année d'apprentissage de la lecture, cette région de la forme visuelle des mots se met en place chez l'enfant. Vous voyez, chez un enfant de 9 ans, elle est très bien installée, on voit très bien cette réponse aux mots dans l'hémisphère gauche, ici, en vert, entouré d'une toute petite réponse au visage à gauche et d'une grosse réponse au visage à droite. Vous voyez que ceci n'est pas en place chez l'enfant de 6 ans avant le CP non lecteur. Pas de réponse spécifique aux mots, Pas non plus de réponse très forte au visage dans cette étude, mais on va voir qu'au même âge, si l'enfant a déjà appris la lecture, en fin de CP, on a bénéficié ici du fait que certains enfants sont ou ne sont pas rentrés au CP, en fonction de leur âge de naissance, de leur date de naissance, eh bien vous voyez que la région de la forme visuelle de mots va se mettre très rapidement en place et son degré d'activation prédit le score de lecture. On peut mesurer l'activation de cette région et voir le score de lecture. C'est intéressant de voir que des enfants qui ont des difficultés de lecture, à 9 ans, ont une activation désorganisée dans cette région. Donc, en particulier, donc, ici, des dyslexiques qui n'ont pas bien appris à lire ne présentent pas, à 9 ans, d'activation appropriée de cette région, de la forme visuelle des mots dans l'hémisphère gauche. Et de la même manière, leur activation pour les visages n'est pas parfaitement organisée. Et ceci se traduit donc par des différences des deux hémisphères. Dans l'hémisphère gauche, les mots ne se sont pas mis en place. Dans l'hémisphère droit, les visages ne se sont pas suffisamment déplacés, n'ont pas suffisamment augmenté chez les enfants dyslexiques par rapport aux enfants normaux. Ça ne veut pas dire que c'est la cause de la dyslexie, mais ça veut dire que c'est un marqueur de la dyslexie. Nous ne savons pas si peut-être chez certains enfants, cela peut être une cause. Nous pensons que chez beaucoup d'enfants, ça n'est pas la cause et peut-être des troubles phonologiques sont la cause. Mais ça veut dire que nous avons un marqueur et que chez ces enfants, il va falloir travailler pour que se mette en place cette facilité de décodage visuel de la lecture. Alors, on me demande souvent, est-ce qu'il y a un âge particulier pour mettre en place ces circuits dans le cerveau ? Eh bien, nous savons maintenant qu'on peut en tout cas aller plus vite. Et nous avons bénéficié d'une expérimentation qui a eu lieu au sein de l'Éducation nationale, dans une ZEP à Gennevilliers, qui a été mise en place par Céline Alvarez, qui a bénéficié d'un financement pour acheter du matériel Montessori, l'adapter en français, en particulier dans le domaine de la lecture. Elle a fait un travail phénoménal. Et ses enfants, une classe de maternelle, ont eu un succès absolument extraordinaire. Je suis allé personnellement. J'ai vu des enfants de 5, 6 ans qui maîtrisaient l'arithmétique à plusieurs chiffres, qui commençaient à savoir lire. Certains d'entre eux étaient d'excellents lecteurs. Et au laboratoire, Ghislaine et Carla ont pu scanner certains de ces enfants qui n'étaient pas encore au CP ou qui venaient de rentrer au CP et voir comment était organisé leur cerveau lorsqu'ils étaient de jeunes et bons lecteurs. Et toujours avec ces catégories visuelles qui leur sont présentées dans l'IRM, hein, eh bien, voici les réponses donc, des enfants non lecteurs appariés en âge, 6 ans de mois, et des enfants lecteurs. Donc, beaucoup issus de la classe de Gennevilliers, pas tous, hein. Il y en a 11 ici. Eh bien, vous voyez que leur âge était de 6 ans, 3 mois, mais ils avaient un an et demi d'avance en lecture. Ils savaient lire 42 mots par minute, ce qui est remarquable, et ils avaient une très forte réponse, qui est ici en rouge, pour les mots, dans l'hémisphère gauche, particulièrement manifeste, avec également des réponses au visage, vous voyez. On les voit un petit peu ici, chez ces enfants non lecteurs, mais elles augmentent particulièrement dans l'hémisphère droit, ici. Donc, une réorganisation qui est en place, sans difficulté apparente, avec des circuits strictement normaux chez les enfants qui ont appris à lire en CP. Bon, ça doit nous poser des questions et ça veut dire aussi qu'il est possible de révolutionner les apprentissages avec des matériels et des pédagogies innovantes. Ceci rejoint complètement la recherche internationale et je voudrais souligner qu'il existe un papier publié déjà dans PNAS en 2010 par Brehm et collaborateurs qui ont utilisé le logiciel Graphogame. Et avec ce logiciel Graphogame, ils ont montré qu'un enfant qui s'entraînait donc aux correspondances graphème-phonème pendant seulement 8 semaines, avec en fait au total assez peu d'entraînement, seulement 4 heures de jeu au total, eh bien l'imagerie a montré, aussi bien en potentiel évoqué qu'en IRM, qu'on voyait apparaître les rudiments de l'ère de la forme visuelle des mots. Probablement pas dans sa forme définitive, dans sa rapidité définitive, mais la région est déjà là, en train de se mettre en place. Donc des jeux élémentaires, et notamment ce fameux Graphogame qu'on espère bien voir très prochainement en français, eh bien, peuvent aider à la mise en place de ces circuits de la lecture. Et l'important, c'est le fait que ces logiciels, sur la base d'un consensus international fondé sur de très nombreuses études, insistent sur les correspondances entre graphème et phonème. C'est-à-dire que l'enfant va travailler, il va entendre par exemple ici le son A, et il va savoir qu'il doit passer par l'échelle de gauche, mettant en correspondance ce qu'il entend avec ce qu'il voit. Alors, vous savez que j'ai beaucoup insisté, évidemment, sur l'importance de ce décodage graphème-phonème et sur le fait que ces méthodes phoniques, multiples méthodes phoniques, mais qui toutes insistent sur les correspondances entre graphème et phonème, sont celles qui fonctionnent le plus rapidement pour l'apprentissage de la lecture. On peut s'appuyer notamment sur cette étude de nos collègues Bruce McKendley, ses collaborateurs, en 2010, qui ont regardé directement chez l'adulte qu'est-ce qui se passait si on essayait d'enseigner un système d'écriture nouveau, mais avec deux méthodes possibles d'enseignement. Donc, vous voyez, ce que la personne doit apprendre, c'est à décrypter cet objet-là, un petit peu comme la pierre de Rosette de tout à l'heure, et ceci, c'est le mot « fog ». Il y a un groupe de sujets auxquels on donne l'instruction, voilà, vous allez voir des formes et vous devez apprendre de quel mot il s'agit. Il s'agit du mot « fog ». Puis l'autre groupe de sujets, on lui montre juste une diapositive, on lui dit, vous voyez, c'est formé en fait de trois morceaux. Le morceau d'en bas correspond au premier son, le morceau du milieu au son du milieu, le morceau d'en haut au troisième son. Seule différence, et ensuite on expose ces personnes pendant 20 minutes à 16 mots, donc des paires de formes et de mots. Et le résultat est extrêmement clair. Au bout de ces 20 minutes, soit on présente des chaînes déjà entraînées, soit des chaînes de caractères nouveaux, et vous voyez que le groupe qui a été entraîné aux correspondances graphème-phonème, systématiquement, va avoir des activations qui sont latéralisées vers la gauche. Alors que le groupe qui a été entraîné avec cette méthode qu'on peut appeler globale, l'attention globale à l'ensemble de la forme du mot, eh bien, va avoir des activations qui sont très fortement latéralisées en direction de la droite. Et ce n'est pas seulement au niveau cérébral que ceci se produit, mais parce qu'après tout, on pourrait penser qu'un changement de circuit cérébral n'a peut-être pas de conséquences au niveau comportemental, mais au niveau comportemental, c'est peut-être ça le plus important. Les deux groupes ont appris les 16 mots. En fait, d'ailleurs, c'est intéressant, le groupe global souvent apprend plus vite. Les 16 premiers mots, c'est un peu plus facile d'apprendre des mots par cœur, et donc le groupe global a appris à 95%, alors que le groupe local a appris seulement à 89% pour les mots appris. Mais par contre, le groupe global ne présente absolument aucune généralisation. C'est-à-dire que lorsqu'il y a deux choix possibles, il est au niveau du hasard, il fait 58% au lieu de 50%. Donc il n'a pas appris à décrypter. Il a appris par cœur 16 mots, mais il ne sait pas décrypter des mots nouveaux, et c'est ça toute la différence. C'est pour cela qu'il faut apprendre à passer par ce circuit de l'hémisphère gauche, parce que lui analyse les séquences de lettres et est capable de les décrypter sous forme de phonèmes. Alors, je pense que on me dit toujours aussi qu'il n'y a plus de méthode globale en éducation nationale. Je crois que c'est vrai. Par contre, si vous regardez dans les manuels, vous avez encore beaucoup d'exercices qui relèvent de cette idée. Et mes propres enfants, il y a quelques années déjà maintenant, ont eu des exercices de ce type où le contour du mot doit être comparé à un contour de rectangle. Des exercices de devinette de mots, etc., ne correspondent pas à ce que nous savons actuellement. Bien, alors j'ai beaucoup parlé de la voie visuelle ventrale, je voudrais vous parler rapidement des autres éléments de la lecture qui sont tout aussi importants. Je viens de dire qu'apprendre à lire, ça consiste à mettre en correspondance des lettres et des chaînes de lettres identifiées dans le bon ordre avec des chaînes de phonèmes. Et donc la représentation des phonèmes joue un rôle fondamental dans cette affaire. Alors nous avons effectivement observé que c'est l'un des résultats de l'apprentissage de la lecture, c'est la modification du circuit de réponse au langage parlé. C'est-à-dire que simplement lorsque les personnes écoutent leur langue maternelle, eh bien, si elles ont appris à lire, cette région qui s'appelle le planum temporale, qui est juste à côté de l'aire auditive primaire, qui fait donc partie des aires auditives du cerveau, qui analyse la langue, eh bien, cette région augmente vigoureusement son activité chez les personnes qui ont été alphabétisées par rapport aux personnes non alphabétisées, qu'il s'agisse de phrases, de mots ou de pseudomots. Ce que nous savons, c'est que cette région représente les phonèmes du langage. Des enregistrements intracérébraux ont permis de montrer qu'il y a des neurones dans cette région qui codent les différents phonèmes que nous avons appris à discriminer, donc les sons du langage. Et il semble bien que l'apprentissage de la lecture augmente la capacité de prêter attention aux phonèmes, de faire des distinctions fines entre les différents phonèmes, de les catégoriser. Et on voit ici directement ces neurones qui catégorisent les sons du langage. Donc apprendre à lire, ça augmente la conscience phonologique, c'est quelque chose qui est connu maintenant depuis plus de 30 ans. Apprendre à lire dans un alphabet, ça porte l'attention sur l'existence du phonème, cette plus petite unité du langage parlé, et ça permet à l'enfant de décomposer le langage parlé, et donc, et aussi de le recomposer à partir de la chaîne de lettres. Donc, une représentation des phonèmes qui est modifiée tout autant que l'est la représentation des lettres et des graphèmes, et on peut se poser la question, est-ce que les connexions entre ces deux régions sont modifiées? Eh bien, la réponse nous est donnée par l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique de diffusion, permet de mesurer les connexions dans le cerveau par le biais de la diffusion de l'eau. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais nous avons accès à cette information sur l'existence de faisceaux de substances blanches qui relient les régions cérébrales entre elles. Et lorsqu'on regarde ces différents faisceaux dans l'hémisphère gauche, avec Michel Thiebaud de Schotten et Laurent Cohen, nous avons pu montrer qu'un de ces faisceaux, qui est en jaune ici, est modifié par l'apprentissage de la lecture. La lecture modifie l'anatomie du cerveau. Cette connexion est renforcée, cette connexion est facilitée, y compris chez les adultes qui ont appris tardivement, chez les ex-analphabètes. Et ce qui se passe probablement, c'est un changement de la myélinisation, c'est-à-dire du fait que ces axones qui communiquent donc les informations d'une région à l'autre sont entourés d'une gaine de myéline qui facilite la transmission des informations, qui accélère la transmission des informations et la fidélité de cette transmission. Ce que ça veut dire, c'est que parce que vous avez utilisé ce circuit, vous avez renforcé ces connexions, vous avez créé un circuit beaucoup plus rapide et efficace. Et ça se voit directement dans l'anatomie du cerveau. Donc, le passage des graphèmes aux phonèmes et vice-versa est extrêmement important. C'est la modification principale que nous voyons dans le cerveau de personnes qui ont appris à lire. Alors, comment lier cela à l'apprentissage ? Eh bien, lorsqu'on apprend à lire, donc on apprend à faire cette correspondance, graphème, phonème, les règles de correspondance ne vont pas de soi, comme on l'a vu. Il ne suffit pas d'exposer l'enfant et d'espérer qu'il va extraire les règles tout seul. Il faut lui expliquer comment ça fonctionne, de la gauche vers la droite, de façon systématique, avec une correspondance systématique de chaque lettre ou groupe de lettres avec des sons. Et bien entendu, il ne faut pas s'arrêter là. L'enfant commence à déchiffrer par cette voix qui est ici en jaune, il analyse le mot, convertit les lettres en sons, mais il faut aussi qu'il écoute, en quelque sorte, ce qu'il vient de reconstituer dans sa tête et qu'il le convertisse en sens. Donc, on me dit toujours, l'enfant va apprendre à déchiffrer sans comprendre. La question de la compréhension est évidemment fondamentale en lecture, c'est l'objectif de la lecture, mais pour cela, il faut que l'enfant prête attention à ce qu'il a converti, entende que ça fait un mot, que ça fait des mots, et qu'on peut les comprendre parce qu'on comprend sa langue maternelle, on comprend déjà le langage parlé. Au fil des années, cette lecture va s'automatiser, elle va commencer par ce circuit un petit peu lent, et progressivement, toutes les lettres vont être reconnues simultanément, et va se mettre en place une voie de lecture beaucoup plus rapide qui permet de passer directement dans le lexique et d'accéder au sens des mots et au sens des phrases. Mais au départ, il est absolument indispensable de passer par cette voie du décodage. Alors l'enseignant peut se focaliser sur la voie en jaune, et la voie verte va se mettre en place spontanément avec la pratique, il faut évidemment inciter à l'école, la pratique de la lecture va automatiser cette voie. C'est pour ça, je pense qu'avec ce schéma, on peut comprendre pourquoi certaines variables ont une influence tout à fait particulière sur la capacité de l'école à inculquer la lecture aux enfants. L'une de ces variables, c'est la connaissance des phonèmes. Si l'enfant maîtrise bien les phonèmes en maternelle, il va pouvoir plus facilement passer par cette voie. L'autre variable, c'est la taille du vocabulaire oral, c'est-à-dire quel est le nombre de mots parlés que connaît l'enfant. Évidemment, on voit que les enfants de milieux défavorisés vont avoir un vocabulaire particulièrement réduit. Eh bien, ça va être un handicap pour la lecture. Pourquoi ? Parce que même s'ils arrivent à décrypter, ils ne pourront pas facilement passer au sens si le mot qu'ils entendent, qu'ils ont décrypté, ne correspond pas à leur lexique. C'est pour cela qu'en maternelle, il faut absolument, et tout au long d'ailleurs du primaire, il faut continuer à enrichir le vocabulaire oral de l'enfant, et il faut être exigeant dans ce domaine. Je pense que l'école doit surtout pas dire « ce sont des enfants de milieux défavorisés, je dois m'adapter et utiliser un vocabulaire basique ». C'est le contraire, ce sont des enfants de milieux défavorisés, je dois enrichir leur vocabulaire, afin de permettre cette fluidité de la lecture. Et enfin, la présence de livres dans l'environnement est une variable très importante, et fondamentale évidemment que toutes les classes aient une bibliothèque dans laquelle l'enfant est incité à emprunter des livres, parce que c'est cela qui va faire circuler l'information, entraîner l'enfant jour après jour, nuit après nuit, pour consolider cet apprentissage. Alors, voilà donc le circuit fondamental. Je vais y ajouter deux éléments pour conclure. Premier élément, attention et mouvement des yeux. J'ai dit que la lecture chez les lecteurs experts est parallèle. C'est-à-dire que le temps de lecture ne dépend pas du nombre de lettres. Et c'est cela qui a donné lieu à une sorte d'illusion de lecture globale. C'est-à-dire que toutes les lettres sont traitées en même temps. Eh bien, lorsqu'on empêche cette lecture parallèle, on voit apparaître un circuit différent, qui est un autre circuit essentiel de la lecture. Vous voyez, si on fait tourner les mots, si on espace les lettres, ou si on déplace le mot dans la partie gauche du champ visuel, on voit apparaître un seuil critique au-delà duquel, même chez un lecteur expert comme vous ici dans cette salle, la lecture devient très ralentie. Soudainement, elle se ralentit. Et on voit apparaître un effet de longueur, c'est-à-dire que les mots de 6 lettres sont traités plus lentement que les mots de 4 lettres. Eh bien, ceci correspond à l'entrée en activité d'un circuit supplémentaire. La voie ventrale visuelle ne peut plus faire son travail, ne peut plus traiter toutes les lettres en même temps. Alors, vous avez besoin d'un circuit d'attention focale qui va déplacer l'attention, ou même le regard, vers chacune des lettres, de manière à pouvoir les décrypter. qui est très intéressant, c'est que ce circuit, évidemment, intervient chez l'enfant, et il intervient probablement de façon transiente chez l'enfant. Nous l'avons vu récemment dans une étude qui n'est pas encore publiée, qui est menée par Carla Monsalvo et Ghislaine de Hahn-Lamberts, dans laquelle nous avons eu la chance de suivre les mêmes enfants 6 fois. Vous voyez ici, 6 examens d'IRM, et c'est tout au long du CP, les premiers examens sont juste avant le CP, et on voit la montée de la performance de l'enfant en décodage graphème-phonème, le nombre de mots lus par minute. Eh bien, la région de la forme visuelle des mots, qui est ici dans la voie ventrale, augmente de façon relativement continue, progressive. Elle ne va cesser d'augmenter son activité à mesure que se fluidifie la lecture de l'enfant. Mais on voit aussi cette activation de la voie dorsale du cerveau, c'est-à-dire ces régions qui s'intéressent au mouvement des yeux et de l'attention, qui intervient de manière transiente. C'est-à-dire que quand l'enfant a des difficultés de lecture, quand il doit décoder lentement avec attention, eh bien, ce circuit va entrer en jeu. C'est un circuit attentionnel et il correspond au fait que chez le jeune enfant, nous avons un effet du nombre de lettres qui est très important. Ici, vous avez une mesure du temps de lecture en fonction du nombre de lettres des mots qui sont présentés aux enfants. Vous voyez qu'en CP, début de la lecture, c'est pratiquement linéaire, c'est-à-dire que plus il y a de lettres, plus ça prend du temps. L'enfant doit vraiment prendre son temps pour décrypter le mot. Lorsque la lecture s'automatise, cette courbe devient plate, et chez l'adulte, elle est complètement plate. Nous n'avons pas besoin de plus de temps pour reconnaître un mot de 8 lettres qu'un mot de 3 lettres. Donc l'enfant doit passer de ce mode de lecture sérielle à un mode de lecture parallèle. Pourquoi est-ce que j'insiste tellement sur ce point? Parce que ça veut dire que la lecture ne s'arrête pas en CP, qu'elle doit continuer tout au long du primaire et par la suite, et que c'est seulement lorsque la lecture devient fluide et automatique que l'enfant peut cesser de se concentrer sur le décodage lui-même et se concentrer sur le sens du texte. Si l'on veut que l'enfant fasse du sens de ce qu'il lit, il faut d'abord qu'il automatise le décodage. Et je voudrais vous donner un exemple, je vais vous laisser lire ce petit texte que vous connaissez peut-être. Ce n'est pas facile. Et peut-être vous sentez ce soulagement extraordinaire lorsqu'on arrive à la fin et que ça redevient du français normal. Bon, est-ce que vous avez compris ce texte? Je pense que vous vous rendez compte que parce que vous étiez tellement concentré sur le décryptage de ce qui est écrit, vous avez du mal à réfléchir au sens de ce qui est dit. Bon, c'est une phrase de Proust, elle est assez longue, évidemment. J'espère que vous comprenez par cet exemple la difficulté qui est celle de l'enfant, c'est celle de la double tâche, celle de ne pas pouvoir se concentrer sur autre chose que cette extraordinaire difficulté de décryptage qui fait qu'en même temps, si on lui demande mais de quoi ça parlait, quel était le sens, eh bien, ça peut être difficile pour lui. Il faut qu'il relise, il faut qu'il re-relise, il faut qu'il réfléchisse au sens et il faut que des exercices de compréhension l'aident. On va en parler dans un instant. Alors, dernier circuit, et je vais terminer là-dessus, celui des gestes d'écriture. Nous avons découvert récemment que tous ces circuits de lecture ne suffisaient pas et qu'il y avait encore un autre circuit qui était situé dans la partie antérieure du cerveau, dans ce qu'on appelle le cortex prémoteur, et qui était connu pour son rôle dans le geste d'action. Lorsqu'on écrit, eh bien, cette région va entrer en jeu et elle comprend une connaissance des gestes qui permettent d'écrire les lettres. Eh bien, cette région intervient aussi pour la reconnaissance de l'écriture manuscrite. Lorsque vous avez des lettres manuscrites, cette région va entrer en jeu et c'est parce que nous reconnaissons le geste qui a conduit à la lettre que nous reconnaissons la lettre dans ce cas-là. Et donc cette région est tout à fait complémentaire de cette région de la forme visuelle des mots qui est ici à l'arrière du cerveau. Celle-ci va analyser la forme des lettres connues, moulées, imprimées. Celle-ci va permettre de décrypter des écritures manuscrites dans lesquelles il faut comprendre le geste. Alors, pourquoi j'en parle? Eh bien, parce qu'on sait maintenant que ce circuit joue un rôle important également dans l'apprentissage de la lecture. La lecture s'améliore lorsque l'enfant pratique l'exploration active des lettres par le toucher et qu'il en apprend le tracé. Et on peut comprendre en partie pourquoi. Par exemple, lorsqu'il y a des lettres en miroir, j'ai pas eu le temps de parler de la difficulté des lettres en miroir, mais on voit que ces lettres sont désambiguisées par le geste d'écriture. Et la mémoire des lettres, la mémoire des correspondances graphème-phonème est aidée lorsque le cerveau dispose d'un code supplémentaire qui est le code de l'écriture. En tout cas, quelle qu'en soit l'explication, la recherche est tout à fait claire sur ce sujet. Apprendre à écrire facilite l'apprentissage de la lecture. Apprendre les deux en même temps est la situation optimale, même si l'objectif est uniquement d'apprendre à lire. Voilà. Alors, je pense qu'il faut donc continuer de pratiquer l'écriture manuscrite en maternelle. Ces résultats sont extrêmement clairs. Ce qui ne veut pas dire que l'éducation nationale ne devrait pas non plus apprendre aux enfants à taper à la machine. Je considère personnellement que dans la culture actuelle, tous les enfants devraient sortir de l'école en ayant appris à taper à la machine. On va commencer par l'écriture manuscrite, mais pourquoi pas, vers 10, 11, 12, 13 ans, avoir systématiquement les 20 ou 40 heures, c'est très peu, hein, 20 ou 40 heures qu'il faut pour être lancé avec la bonne position des doigts et apprendre à taper à la machine, et on tirera le meilleur parti à ce moment-là des deux systèmes d'écriture. Voilà, alors je termine vous disant donc que nous avons, avec plusieurs collègues, dont Liliane Sperger-Charol et Caroline Huron, Ghislaine de Haan-Lamberts, publié un petit livre qui s'appelle « Apprendre à lire », qui rassemble ces principes pédagogiques que nous pensons pouvoir extraire de la science de la lecture. Et je ne vais pas revenir dessus. Je voudrais simplement dire à nouveau que entraîner initialement les correspondances graphème-phonème, c'est-à-dire par des méthodes phoniques, ne suffit pas. Et qu'il est évidemment essentiel, c'est l'objectif de tout le monde, d'arriver à ce que l'enfant comprenne le texte. Pour cela, il faut routiniser, automatiser les correspondances graphème-phonème, mais on peut aussi développer des exercices spécifiques pour développer la compréhension. Et c'est exactement ce dont Maryse Bianco va vous parler dans un instant. Je vous remercie de votre attention.